Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Mon invité du jour est le romancier Olivier Adam. Son dernier livre, Tout peut s'oublier, vient de sortir. C'est un drame familial, l'histoire d'un père privé de son fils, l'histoire d'un père obligé d'aller à la recherche de son fils au bout du monde, là où il retournait vivre sa mère après une rupture brutale. Un drame familial donc avec une traque, des détectives, des rebondissements, où une île paradisiaque peut se transformer en enfer sur Terre, de la Bretagne au Japon, dans la géographie familière d'Olivier Adam, un nouveau roman court et haletant comme un bon polar bien documenté. Tout peut s'oublier est édité chez Flammarion.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Il resta un moment devant les shops fermés avant de poursuivre son absurde déambulation. Au passage, il salua les commerçants un à un et leurs rares clients quand ils étaient aussi les siens. Les trois filles de la parenthèse, le petit resto où il avait ses habitudes. Lise, au milieu des livres et des étagères, qui sirotait un café en ouvrant le courrier du jour. L'opticien qui ne ratait jamais les films qu'il recommandait et adorait lui tenir la jambe à leur sujet pendant des plombes après les projections. Au fond de la boulangerie, penché sur ses baguettes prêtes à cuire, Yoko fit semblant de ne pas le voir. Son mari, occupé à installer ses pâtisseries dans la vitrine, lui adressa tout de même un petit sourire, toujours le même depuis la disparition de Yoon et de Léo. Un petit sourire triste et compassionnel. Il semblait sincèrement désolé pour Nathan. Mais peut-être s'en faisait-il surtout pour lui-même. Peut-être se demandait-il si ça ne lui pendait pas au nez, à lui aussi, si Yoon n'allait pas déclencher une épidémie, une remigration massive des Japonaises mariées à des Français établies sur la côte d'Émeraude. C'est un extrait de Tout peut s'oublier, donc le dernier roman d'Olivier Adam. C'est un récit bouleversant sur la paternité, puisqu'il s'agit d'un père, Nathan, qui du jour au lendemain va perdre sa femme, reparti au Japon, emmenant leur fils Léo, 5 ans, évaporé, disparu dans un pays lointain où les règles de garde d'enfants sont totalement différentes. Mais il y a d'autres personnages dans ce roman qui vivent à peu près ce qu'endure Nathan, terrorisé par l'absence de son fils. Il y a bien sûr Lise, la libraire, sa voisine, qui n'arrive plus à revoir son fils en pleine révolte radicale, disons. Il y a deux frères, les frères Cellier, qui recherchent désespérément leur sœur disparue, elle aussi, au Japon. La disparition des êtres chers traverse à peu près tous les romans que vous avez écrits ces 20 dernières années, Olivier Adam. Bonjour.
Bonjour.
Sauf que cette fois-ci, c'est le thème central dans votre dernier roman, Tout pour s'oublier.
Oui, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la disparition, mais en fait, plus que ceux qui partent, ce qui m'intéresse, c'est toujours ceux qui restent. Et au fond, à travers eux, j'essaie d'examiner la manière dont on s'en sort, ou on s'en sort pas d'ailleurs, avec nos disparus, avec nos deuils, avec nos séparations. Et là, dans ce livre-là, c'est vrai qu'on est vraiment sur le récit complet d'une quête, à partir du moment où l'ex-femme de Nathan regagne le Japon, son pays natal, en emmenant leur fils, Léo, et où il va y avoir deux temps. Un premier temps qui est celui de la panique et de la quête, il faut déjà les repérer dans un pays que Nathan connaît bien, mais qui est quand même...
Ou qu'il croyait bien connaître.
Qu'il croyait bien connaître, oui, ça fait un peu partie d'une espèce de réflexion sur tout ce qui peut nous échapper et que je partage d'ailleurs avec le personnage. C'est un pays où j'ai beaucoup séjourné, dont je fréquente beaucoup la littérature, le cinéma, les arts visuels, mais dont je ne parle pas la langue. Et voilà, on peut pas être naïf, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau croire connaître un endroit comme celui-là, être familier même de ces rites, de ces traditions, il y a une part qui nous échappe et voilà. Et ce pays aimé va devenir pour Nathan un enfer, quoi.
Ouais.
Un enfer parce que il y a d'abord la difficulté de repérer sa femme et son enfant, Mais ce n'est que le début des ennuis.
Quand vous dites c'est une quête, Olivier Adam, vous avez même employé le mot enquête, parce
oui,
que
une enquête.
On lit aussi votre roman comme un polar, puisqu'il y a une enquête policière, une enquête d'ailleurs un peu kafkaïenne, mais il y a un suspense, comme dans un bon roman policier. Mais il y a aussi un côté documentaire sur les enfants nés de couples mixtes franco-japonais quand les parents divorcent et que les lois des deux pays divergent sur les conditions de la garde de l'enfant. On a l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet.
Bah, c'est vrai que je me suis inspiré de cas réels sur lesquels je me suis documenté, parce qu'il se trouve qu'au Japon, pour les couples japonais, en cas de séparation, le partage de l'autorité parentale n'existe pas. Le droit de visite, le droit de garde, tout ça, ça peut s'arranger à l'amiable, mais juridiquement, légalement, ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas vous retourner vers la justice pour faire valoir vos droits si un des deux parents, celui qui a la garde, refuse de vous laisser voir votre enfant. Et dans le cadre de couples mixtes, eh bien, au Japon, c'est la loi japonaise qui s'applique et les autorités japonaises n'ont rien à faire que dans le pays du non-ressortissant, les choses aient été arrangées juridiquement autrement. Alors, c'est une situation qui est héritée, en fait, de la tradition, enfin, ou de l'usage des mariages arrangés, qui ont longtemps été le lot commun, quoi, au Japon. Et on considère qu'une famille, un foyer, c'est l'union presque économique, quoi, de deux familles. Et quand la séparation survient, chacun reprend ses biens, et d'une certaine manière, l'enfant fait partie de ses biens et n'appartient, entre guillemets, qu'à une de des familles. Alors, dans le cas de couples mixtes, franco-japonais par exemple, mais ça peut être de n'importe quel autre pays, on se retrouve dans une situation où les pères, parce que ce sont souvent des couples où, par exemple, l'homme est français et la femme est japonaise, et dans ce genre de cas, les pères ne peuvent pas faire valoir le moindre droit. On les reconnaît comme géniteurs, mais on ne les reconnaît plus comme pères. Et ça va tellement loin que si l'ex-femme se remarie, au bout de quelques mois, son nouveau mari peut adopter l'enfant. Et le père, donc, le père génétique, se retrouvait doublement dépossédé. D'abord parce qu'il n'a aucun droit ni de visite, ni d'autorité parentale, et ensuite parce que même il ne sera plus légalement le père.
Il y a beaucoup d'exemples dans ce cas, Olivier Adam.
Bah, il y en a suffisamment pour que ça soit venu aux oreilles.
Ouais.
Il y a eu pas mal d'articles, notamment dans Le Monde, dans Libération, et aussi dans les journaux étrangers, dans Le Guardian ou ailleurs.
Ouais, parce que quand je disais c'est très documenté, on apprend des choses. Par exemple, ce spleen français, ces japonaises qui aiment la France, qui ont un coup de foudre pour la France, qui viennent s'installer en France et qu'après un certain temps, elles ont le blues et elles décident de tout quitter, de rompre avec la France pour rentrer chez elles. Par exemple, ce spleen, donc, typiquement français, il existe vraiment?
Oui, on appelle ça le syndrome de Paris.
Ouais, le syndrome de Paris.
Ouais, alors ça vaut pour toute la France, hein, pas que pour Paris, mais on l'a quand même appelé le syndrome de Paris. Et c'est vraiment
Et c'est pas une invention d'un écrivain.
Non, c'est une sorte de dépression qui est cliniquement étudiée, en tout cas référencée, qui tombe sur les Japonais venus, enfin sur un certain nombre de Japonais venus s'installer en France au long cours, ce qui séjourne longuement. Et il vient de deux choses. D'abord, il y a de la très grande différence entre la France qu'ils avaient rêvée et la France telle qu'elle est. Il suffit d'aller au Japon, enfin, il suffit. Quand on va au Japon, on se rend compte qu'il y a une très grande francophilie, mais qui est basée sur une image évidemment très enjolivée et faussée de la France, une image tirée des films très Amélie Poulain et de la mode, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Et des grandes icônes françaises. Et donc, ils imaginent ce pays tout en raffinement, en élégance, en douceur. Et évidemment, ils déchantent quand ils restent longtemps en France et qu'ils découvrent les fractures, une forme de brutalité aussi dans les rapports sociaux de notre pays. Et puis il y a une espèce de différentiel culturel, c'est-à-dire que, pour être très prosaïque, au bout d'un moment, ils nous trouvent grossiers, brutaux, mal polis, ils trouvent que les rues sont sales, et ça crée, voilà, une espèce de désenchantement et un spleen qui souvent vient à bout de leur velléité d'ailleurs de s'établir en France longuement, quoi.
Olivier, en parlant des autres personnages, parce qu'il y a bien sûr au centre Nathan, donc ce père qui est cartelé entre différents pays, la Bretagne, le Japon, il mène une existence plutôt terne, a priori ni du genre engagé, ni du genre combatif, comme le dit si bien sa propre mère. Et pourtant, ce n'est pas un loser, ce n'est pas un pleutre, il a quelque chose de romantique.
Il vit un peu dans la fiction, quoi. Il tient un cinéma qui lui a été légué par son oncle qui l'a initié à la magie des salles de projection et qui l'a encouragé dans sa cinéphilie. Et au fond, il a trouvé un débouché au reproche que lui faisaient ses parents, à savoir que rien n'avait l'air de l'intéresser dans la vie à part mater des films, quoi. Et il en a fait son métier. Et presque par contamination, c'est quelqu'un qui vit un peu en spectateur et à qui ça convient, il le dit, il n'avait jamais rêvé d'un premier rôle, quoi, et il est bien dans son cinéma de bord de mer, il vit un peu en lisière de sa propre, en spectateur, en lisière de sa propre vie, et de celle des autres, et tout à coup ce drame va le projeter au premier plan, quoi, et dans l'action, et il va devoir sortir un peu de sa zone de confort et de lui-même. Pour agir, ce qu'il n'a pas tendance à faire en général, il a plutôt tendance à laisser les choses se faire. D'ailleurs, Yoon, quand elle le quitte, lui dit « Voilà, en fait, tu choisis jamais vraiment. C'est moi qui t'ai embrassé, c'est moi qui ai décidé de venir m'installer en France, c'est moi qui t'ai proposé qu'on ait un enfant. » Et au bout d'un moment, elle a eu l'impression qu'il était un peu un poids. Mais lui, bien sûr, ne se fait pas cette image de lui-même, quoi. C'est plus quelqu'un qui est rêveur et qui a vécu cette histoire d'amour comme sortie d'un film, d'ailleurs.
Ce roman, c'est un roman qui est inscrit dans le temps présent, hein. On est dans la France du président Macron, dans une France rythmée par des manifestations, par une grogne sociale, par des tirs LBD, et tous les personnages, entre Nathan qui est à la recherche de son fils, donc qui est séparé de son fils, sa voisine Lise qui, elle, ne peut plus voir son fils parce que ce fils, il est en pleine radicalité, il veut plus voir ses parents qu'il considère comme bourgeois, lui, il est dans la lutte de l'extrême gauche, ses deux frères qui vont chercher leur sœur, on est vraiment dans une atmosphère où tout le monde est éloigné des êtres chers, comme un prélude à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si vous ne parlez pas de la pandémie, on a l'impression que toutes ces personnes, comme si c'était une allégorie de ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces personnes sont séparées, sont obligées, sont condamnées à une séparation.
Oui, c'est à la fois ça, puis c'est à la fois des co-solitudes, si on peut dire. C'est des gens désemparés et abandonnés. Par leurs êtres chers, mais qui s'épaulent et essayent de s'aider et de se consoler aussi les uns les autres.
Non, ce que je voulais dire à Olivier Adam, est-ce que votre roman, c'est aussi un roman d'époque? Est-ce qu'il est nourri par tout ce que nous vivons?
Oui, parce que moi, j'ai toujours aimé relier l'intime et le collectif dans tous mes livres, le personnel ou l'émotionnel ou le psychologique et le social ou le sociétal ou le sociologique. Et notamment dans ce livre, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était à travers le personnage de Lise et de son fils, c'était d'examiner comment les faits sociaux, les événements, les mouvements sociaux,
la politique,
les structures françaises, en fait, peuvent s'infiltrer jusque dans et briser et fendiller un lien qui est a priori inconditionnel. Comment les fractures françaises peuvent s'infiltrer jusque dans l'amour que se vouent une mère et son fils. Et à travers cette espèce de... Il y a cette atmosphère de très grande radicalité aussi, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qu'on voit aussi...
Dans les rues
en ce moment, et voilà, je voulais montrer comment c'était pas juste dans les journaux, quoi, comment ça affectait vraiment jusqu'à la vie sentimentale de chacun de nous.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
C'est fait, mais Si tu voulais tordre ma ferraille, ouh, ça c'est fait, babe. Ça c'est fait, babe. Tu voulais vendre la limaille, ça c'est fait, babe. Mais si tu voulais que je m'écrase,
tu voulais me faire Pearl Harbor, ça c'est fait, baby. C'est bien sûr Jean-Louis Murat, extrait dans son dernier album Baby Love, et il est cité en exergue de votre dernier roman, Olivier Adam. Tout peut s'oublier chez Flammarion. D'ailleurs, vous citez aussi Dominique A, Étienne Dao, Nick Cave, Divine Comédie, les premiers Catherine, et on peut le dire maintenant que le titre de votre roman renvoie à la fameuse chanson de Jacques Brel, Tout peut s'oublier. Ne me quitte pas. La chanson est très présente, les chansons populaires sont très présentes dans votre univers, Olivier Adam.
Toujours, c'est une forme de. À la fois de.
De repère.
De repère, de temporel, de repère aussi pour caractériser les personnages à travers leur goût. Enfin, Nathan parle beaucoup des cinéastes. Il défend dans son cinéma.
Absolument, c'est-à-dire plutôt Almodovar, Nanni Moretti, Wes Anderson, Cassavetes, Jarmusch, plutôt que les Franck Dubosc et les Cadmerades.
Oui, bah, il tient un cinéma d'arrêt d'essai, et ouais. Puis évidemment, c'est sa vie le cinéma, donc il a un goût un peu plus précis, et voilà, il n'est pas. Il n'est pas très bon public, disons. Il a un goût très canois, on va dire.
C'est aussi vos goûts que vous faites passer à travers les goûts de votre personnage, Nathan, Olivier Adam.
Oui, vous savez, ça fait très longtemps maintenant que mes personnages, surtout mes personnages masculins, sont des sortes de doubles dérivés de moi-même. Et que, si vous voulez, moi, je n'écris pas d'autobiographie, jamais. Je fais des fictions, j'invente d'autres vies que les miennes, comme dirait Emmanuel Carrère. Mais pour ça, il faut procéder par intuition pour imaginer ce que peuvent être les destins de ces personnages. Et pour procéder par intuition, il faut se fonder quand même sur sa propre expérience. Et c'est dans cet entre-deux que je me situe toujours, avec des personnages qui sont des sortes de porte-parole ou de doubles à qui je prête beaucoup de mes goûts, de mes réflexions. Et que je plonge dans une situation, par contre, que je n'ai jamais vécue.
Et comment ça va en ce moment, Olivier Adam ? Je vous pose cette question parce que depuis le printemps dernier, on vit une drôle d'époque avec cette pandémie, avec beaucoup de confinement et de reconfinement, c'est-à-dire où on s'isole. Donc on imagine qu'un écrivain, pour un écrivain, c'est pas très nouveau. Vous avez l'habitude de cet isolement pour travailler, pour écrire. Néanmoins, il doit sans doute s'agir d'autre chose, même pour vous, Olivier Adam, écrivain, ce que nous sommes en train de vivre.
Bah, d'abord, on manque singulièrement de nourriture pour nourrir cette écriture. Alors évidemment, l'écriture se fait souvent dans une pièce, arrimée sur un ordinateur et un peu en retrait du monde, ce qui ressemble peut-être d'une certaine manière au confinement, mais elle se nourrit de l'extérieur. Elle se nourrit des conversations au café, elle se nourrit des œuvres qu'on va voir dans les galeries, les musées, des films qu'on peut voir, des conversations qu'on peut avoir, des liens affectifs, amoureux. Or là, il y a vraiment ce sentiment que la vie est arrêtée depuis mars, quoi, que tout est suspendu et vidé de sa substance, quoi. Et donc je suis pas tellement certain que ça puisse être une vraie source d'inspiration d'une certaine manière. C'est peut-être propice au travail, encore que le premier confinement, pour des raisons très pratiques, ne l'était pas vraiment, puisque pour ceux qui ont des enfants, ils n'étaient pas scolarisés, ils étaient à la maison toute la journée, il fallait leur faire les cours. Et par ailleurs, j'ai beau écrire des livres mélancoliques, moi j'ai besoin d'être moralement très en forme pour écrire, et je trouve la période extrêmement déprimante, quoi. Voilà. Parce que on est entouré de souffrances liées à des deuils pour certains d'entre nous, à la maladie, et puis parce qu'on est entouré d'une souffrance psychologique liée à la solitude, à l'isolement. Moi, je pense beaucoup aux étudiants, notamment, qui depuis mars ont eu 4 semaines de cours et qui sont absolument privés de toute vie sociale, affective, amicale. et qui sont perdus et qui en plus parfois pour certains d'entre eux sont confrontés à une précarité grandissante parce qu'ils ont en plus perdu leur job d'appoint qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Et évidemment la détresse aussi des gens qui sentent qu'ils vont perdre leur boulot, du secteur culturel qui bien sûr au premier chef est comme les restaurateurs impactés durablement par cette situation. Voilà, donc il y a quand même une atmosphère extrêmement
mauvaise. Qui vous inspire, qui pourrait être votre prochain roman ou
votre
prochain. Pourquoi ?
J'ai pas envie parce que, si vous voulez, je crois qu'il n'y a rien de bon à retenir de cette période. Et en faire un livre, ça serait presque lui faire trop d'honneur.
Tout peut s'oublier, c'est le titre de votre dernier roman, c'est édité chez Flammarion. Merci beaucoup, Olivier Adam, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Bouchard avec ce matin à la prise de son Jordan Fuentès. Dans un instant sur France Culture, le journal. Nous, on se retrouve demain. Bonne journée.